Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC Motors, Arnaud
Souk, Jean-Le Croix. Salut à tous, c'est parti pour Motors, bienvenue si vous nous rejoignez sur RMC, il est 13h04, 100% Formule 1 aujourd'hui. Et oui, les amateurs n'ont plus bien longtemps à patienter, trois petites semaines avant le Grand Prix d'ouverture à Melbourne en Australie. On va saluer en direct de Floride Jean-Luc Croix. Salut Jean-Luc.
Salut Arnaud, bonjour à tous.
À trois semaines justement de la reprise, tu as souhaité tout nous dire de ce que sera cette saison 2019. Circuit, écurie, pilote, nouveauté, premier test de Barcelone où Ferrari et Mercedes ont été au coude à coude avec un léger avantage, on le verra, pour la Scuderia. Notre invité dans un instant, Romain Bernard, rédacteur en chef d'Auto Hebdo, nous présentera tout ça à travers le guide F1 2019 en kiosque évidemment, dont RMC, radio de la Formule 1, est partenaire. 2019 avec le Grand Prix de France évidemment au programme au mois de juin sur le circuit du Castellet. On sera d'ailleurs avec Eric Boulier en ligne dès 13h25, l'un des membres de l'organisation, ancien team principal de Renault et de McLaren, et on viendra également avec lui sur les essais de Barcelone. Et puis vous avez l'habitude, en fin d'émission, 13h45, Radio Paddock, toute l'actu en coulisses avec à nouveau notamment le spectre, pourquoi pas, d'un jour un Grand Prix au Vietnam. C'est parti pour Motors. Et on va faire un petit tour de nos directs. Juste le temps pour moi de vous dire que Castres et le Racing 92 sont pour l'instant à égalité, 3 partout dans le match de midi et demi de la 17e journée de Top 14 de rugby. Il y aura Lyon Clermont tout à l'heure en clôture à 16h50. On va également saluer Morgan Maury, notre spécialiste ski alpin. Salut Morgan.
Salut les champions du démarrage en côte.
Et toi, c'est pas le démarrage en côte, toi c'est la vitesse le plus vite possible en bas de la piste avec le slalom géant de Bansko, et on espère évidemment des merveilles encore de notre français Alexis Peintureau qui n'est pas passé pour la deuxième manche.
Non, ni Thomas Fanara qui était cinquième à l'issue du premier exercice. Ça s'est mal passé en revanche pour Mathieu Feff qui est cinquième provisoire et Victor Mufajan des septième provisoire dans cette deuxième manche. Course dominée par un Norvégien, Rasmus Widingstad, mais les meilleurs skieurs du moment, les champions du slalom géant, vont se présenter dans un instant. Donc Fanara cinquième de la première manche à 78 centièmes de Marcel Hirscher et Alexis Peintureau troisième de la première manche à 68 centièmes du vice-champion du monde de slalom géant. Alors Alexis Peintureau et Thomas Fanara joueront sur une pour la place sur le podium. Pour la victoire, ça semble un peu loin encore.
Et on reviendra te voir évidemment dès qu'il se passe quelque chose d'important en faveur notamment des Français. Tout de suite, c'est le briefing.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite, 120. Le briefing. Et Jean-Luc, je te propose qu'on accueille donc Romain Bernard, rédacteur en chef d'Auto Hebdo, avec nous en direct tout au long de l'émission. Bienvenue.
Bonjour, bienvenue. Merci.
Pour évoquer en détail cette saison de Formule 1 2019. Juste les bases, on va les poser. 21 Grands Prix, comme en 2018, de la Chine à l'Autriche, en passant par les classiques, Monaco ou encore le Brésil. Tiens, j'ai noté une petite statistique sympathique, ou en tout cas un chiffre sympathique, ou plutôt un nombre sympathique. Faut savoir que le 14 avril 2019 à Shanghai sera couru le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Quand ils ont inventé le championnat du monde il y a quelques décennies, ils devaient pas se dire que ça irait jusqu'à... Enfin, en tout cas, je sais pas s'ils avaient l'espoir que ça irait jusqu'à 1000. En tout cas, c'est le cas cette année. Donc.
Exactement. Bah, tant mieux. C'est la preuve que la discipline se porte bien. Et puis, dans la liste que vous venez de citer, il y a évidemment le Grand Prix de France aussi. Faut pas qu'on l'oublie. Et puis, je pense que cette année, ouais, on va bien se marrer.
On va bien se marrer, Jean-Luc, et on peut se féliciter justement que, eh ben voilà, ça atteigne le 1000e Grand Prix dans quelques semaines à Shanghai.
Bien sûr, c'est devenu une institution. C'est, on le sait, la discipline phare du sport automobile depuis 1950. Hein, je rappellerai que le premier Grand Prix s'était déroulé en Grande-Bretagne à Silverstone sur un ancien aérodrome militaire. Et effectivement, c'est un championnat qu'on attend chaque année avec beaucoup d'impatience. Tu parlais du premier Grand Prix qui sera lieu le troisième, qui déroulera le troisième week-end en Australie. Eh bien, naturellement, les premiers essais auxquels nous avons assisté étaient très importants, même si les résultats en termes de chrono sont plutôt étonnants pour le moment, avec effectivement le meilleur temps réalisé par Nico Hülkenberg et sa Renault. Qui aurait parié ça sur l'ensemble des quatre jours devant les deux Toro Rosso des débutants Albon et Kvyat qui revient Donc c'est vrai, mais alors où sont les Ferrari et où sont les Mercedes? C'est évidemment la question.
Avant d'évoquer tout ça, justement, d'abord, on vous conseille évidemment de vous rendre en kiosque pour vous procurer ce numéro donc d'Auto Hebdo, le guide F1 de la saison en partenariat avec RMC, avec à la une belle Ferrari et notamment ce titre, Charles Leclerc, le nouveau petit prince de Ferrari, et oui, le pilote monégasque qui va avoir un baquet de très très grande qualité justement cette année. Je voudrais qu'on fasse un peu de pédagogie, messieurs, d'abord sur l'intérêt de ces essais de pré-saison. Il y a eu des essais à Barcelone, il y aura à nouveau des essais à Barcelone la semaine prochaine. Concrètement, à quoi ça sert et est-ce que c'est le révélateur d'une saison, ces essais?
Non, aujourd'hui c'est plus vraiment révélateur. Surtout la première semaine, on dirait que c'est plutôt l'opportunité de remettre un peu tout le monde dans le rythme après deux mois de pause. Il faut voir après ce que donnent les premières corrélations entre ce qu'on a en virtuel, si je puis dire, d'un point de vue de l'usine, et puis ensuite ce qu'on retrouve sur la piste. Donc non, la première semaine pour moi, sincèrement, elle est consacrée vraiment à la compréhension des voitures. D'un point de vue performance, on attendra cette semaine.
On pourrait comparer ça, je sais pas moi, à une campagne par exemple de matchs amicaux en football en début de saison, voilà, face à des équipes qui sont pas forcément prêtes ou qui sont pas forcément de la même qualité pour des clubs de Ligue 1 ou des clubs d'autres championnats étrangers.
Ouais, c'est du décrassage. Je peux dire, voilà, les pilotes, encore une fois, ils ont pas conduit à ces vitesses-là depuis deux mois. Faut reprendre des réflexes. Et puis, les ingénieurs, comme les voitures coûtent des fortunes, il faut absolument pas les mettre dans le rail. Les pièces sont encore très limitées s'il se passe quoi que ce soit. Donc non, ils roulent vraiment sur un rythme où on arrive à voir des tendances. On voit, sans se stresser, si une voiture quand même déjà arrive à aller vite. Donc voilà, ça c'est une première tendance. Ensuite, voilà, faut attendre cette semaine. On aura encore un peu plus de précision. Et ensuite, c'est vraiment en Australie où il y aura des pièces secrètes qui arriveront réellement. Là aujourd'hui, on a juste des tendances et des concepts qui ont été mis sur la piste. Ça va s'affiner là.
Ils roulent à des allures à laquelle ils n'ont pas forcément roulé depuis deux mois, Jean-Luc. C'est vrai, c'est quelque chose de compliqué peut-être pour les pilotes. Enfin, il faut se remettre en route.
Alors oui, effectivement, plusieurs l'ont confié. C'est vrai qu'après une période d'inactivité comme celle-là, une activité obligatoire, puisqu'il n'y a aucune séance d'essai programmée pendant l'hiver, les pilotes doivent se remettre en jambes. Maintenant, d'après ce qu'on a entendu, physiquement, ils sont plus que prêts puisqu'ils s'entraînent de manière spécifique, même si certains te diront toujours que le meilleur exercice, c'est d'être au volant de la voiture, notamment au niveau du cou. Les coups, évidemment, sont soumis à beaucoup de jets latéraux, notamment sur ce tracé de Barcelone, qui est une référence. Il faut aussi retrouver les perspectives, parce que ce sont des machines qui, quand même, au bout de la ligne droite, frôlent les 350 km/h. Ça veut dire que les zones de freinage sont très pointues, c'est quasiment au mètre près. On a pu voir quelques pilotes commettre des erreurs, mais pas tellement, finalement, et puis souvent suite à des problèmes techniques. Donc, effectivement... je dirais que ta remise en jambe pour les pilotes s'est très bien passée. Au bout de ces quatre jours, on n'a pas eu de gros problèmes, véritablement, en tout cas au niveau physique.
Alors, on va justement rentrer un petit peu plus dans les détails de ces essais de Barcelone. On se projettera tout à l'heure vers la prochaine, justement, séquence de quatre jours d'essais à Barcelone où vous nous le disiez, Romain Bernard, ça sera, ben voilà, peut-être déjà plus le temps, pourquoi pas, pour les pilotes et les écuries de mettre d'autres choses en avant. Qu'est-ce qu'on peut en déduire chez les grosses cylindrées, j'ai envie de dire, Jean-Luc, d'abord, Ferrari, Mercedes, Renault?
Eh ben, c'est un peu la surprise, voire même la déception. Parce que si je me fie aux résultats sur les quatre jours d'essai, on ne retrouve Bottas et Hamilton qu'assez loin, puisque Bottas est sixième temps et Hamilton septième temps. Alors, on a bien compris qu'on travaillait sur le fond, évidemment, chez Mercedes. On ne cherchait pas véritablement la performance sur un tour. Et puis, il faut voir, évidemment, le type de pneumatique également utilisé. On sait que chez Pirelli, cette année, on a essayé de simplifier un petit peu la gamme des pneumatiques utilisées. Donc, on a maintenant uniquement trois catégories de gomme par Grand Prix. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, qui recouvrent, en fait, cinq qualités de gomme différentes. Bref, du côté de chez Mercedes, on n'a pas été les plus rapides, mais on n'a pas été non plus du côté de chez Ferrari, où juste derrière, dans le palmarès, je dirais, des quatre jours, derrière Bottas et Hamilton, on retrouve Leclerc et Vettel. Mais il faut préciser que Vettel a été le plus rapide le premier jour et Leclerc a été le plus rapide le deuxième jour. Alors je pense que Romain sera d'accord avec moi. Les spécialistes s'accordent à dire qu'a priori, pour le moment, les Ferrari sont les voitures les plus rapides.
Oui, clairement, pour moi, les Ferrari sont devant, surtout que tu parlais des mix de pneus et de gomme. voilà, il y a 5 crans de gomme, ça va du C1 au C5, le C5 étant le plus tendre absolu. Donc voilà, entre chaque cran du C1 au C5, on estime qu'il y a environ une demi-seconde autour d'écart en termes de perfo. Donc voilà, aujourd'hui les Ferrari ont vraiment pas du tout montré leur jeu. Ils ont pris simplement le mix médium, on appelle ça. Donc c'est les flancs jaunes et on peut estimer que vu le faible écart de perfo avec les Mercedes, aujourd'hui à pneus égaux, ils seraient devant.
Messieurs, on va se couper une petite seconde sur l'actu Formule 1 à 13h14 dans Motors. On va aller voir les Formule 1 des neiges avec Morgan Mori et donc ce slalom géant de Bansko avec un Français en deuxième manche qui va pas tarder à s'élancer.
Oui, c'est Thomas Fanara, 37 ans, ses derniers moments en Coupe du Monde. Il est en train de les vivre. Il y a cette deuxième manche de Bansko. Il y aura Kranjska-Gora et les finales de Coupe du Monde en Andorre et ensuite la retraite pour le skieur de Praz-sur-Arly, course dominée par un Slovène, Zdeněk Kranjec, l'homme qui a gagné le géant de Svalbard cette année, 3 centièmes d'avance dans la cabane pour Thomas Fanara. C'est parti, il faut faire un copier-coller de la manche de Kranjec pour être en vert en bas et prendre les commandes de ce slalom géant à 4 passages de l'arrivée, manche tracée par l'entraîneur français Jean-Michel Agnolet. 3 centièmes d'avance pour Thomas Fanara dans la cabane de départ, le premier intermédiaire qui va arriver pour le skieur de Praz-sur-Arly. Il a augmenté son avance, 13 centièmes d'avance sur Kranjec. Attention, il est dans le passage le plus difficile, le virage en dévers et la partie la plus verglacée de cette piste bulgare. On a vu beaucoup d'erreurs à ces endroits. Ça passe pour Thomas Fanara, nouvel intermédiaire qui va arriver dans un instant pour Thomas Fanara. 2 podiums cette année en Coupe du Monde, dont un à Delboden, la Mecque du géant. Il est toujours devant, il agrandit son avance, c'est la manche parfaite pour l'instant pour Thomas Fanara. 35 centièmes d'avance sur le chrono du Slovène Zdeněk Kranjec. Peut-être un troisième podium pour lui tout à l'heure si ça continue. La partie finale est longue. Il est long ce slalom géant de Bansko. 1 minute 15 de descente et nouvelle avance augmentée pour Fanara. 55 centièmes sur Kranjec. La partie finale qui est assez simple, assez tournante pour Thomas Fanara qui met beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement. Et il termine Thomas Fanara sous la banderole d'arrivée. Et il est devant avec 27 centièmes d'avance sur Kranjec. Fanara qui prend les commandes à venir. Mats Olsson, Alexis Pinturo, Henry Christophersen et Marcel Hirscher, peut-être un podium pour Fanara et à venir dans 2 minutes, le passage d'Alexis Pinturo.
Allez, 75% de chance qu'on ait un podium français, que ce soit Fanara ou Pinturo aujourd'hui, puisqu'il ne reste plus que 4 concurrents. C'est la mi-temps au rugby, 17e journée de top 14 avec le Castres Olympique qui mène 6-3 sur sa pelouse du stade Pierre Fabre face au Racing 92, avant-dernier match de cette 17e journée. Je vous rappelle qu'à 16h50, on vivra notamment la rencontre de clôture entre le Loup Lyon et la S Clermont-Auvergne Dauphin du stade Toulousain. Classement général à 13h16 dans Motor sur RMC. On va se replonger dans ces essais de Barcelone. On s'est un petit peu coupé, messieurs, Jean-Luc Roy. Désolé, et Romain Bernard, rédacteur en chef d'Auto Hebdo, qui est avec nous aujourd'hui tout au long de cette émission, évidemment, pour poursuivre le direct. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, on va pas en déduire grand-chose forcément pour les grandes écuries, même si Jean-Luc soulignait une certaine déception. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà déduire que certains sont en retard, d'ores et déjà, dès ces essais de Barcelone, dès cette première séance d'essais?
Jean-Luc, à toi. À moi. Voilà, l'énorme déception à notre sens, c'est Williams qui a déjà raté 2 jours d'essai. Voilà, vu le palmarès, l'histoire de cette écurie aujourd'hui, voilà, elle commence vraiment à toucher le fond et voilà, c'est vraiment triste. Espérons que c'est simplement un petit raté au démarrage et qu'ils vont essayer, vu leur puissance peut-être technique, de rattraper le coup. Mais bon, voilà, aujourd'hui. À ce niveau-là de compétition, déjà raté 2 jours sur 8 possibles, c'est vraiment pas glorieux, quoi.
Jean-Luc?
J'appuie évidemment ce que vient de dire Romain. C'est une catastrophe et ça fait extrêmement mal au cœur. On rappelle quand même que l'équipe Williams, il n'y a pas si longtemps, avait terminé 3e, 5e au championnat du monde. Donc, c'est pas si éloigné, pour ne pas parler naturellement des très nombreux titres de champions du monde qu'ils ont alignés comme des perles avec le moteur Renault dans les années 90. Donc voir une grande équipe comme l'équipe britannique Williams, on a infiniment de respect pour Frank Williams, la voir descendre aux enfers et commencer, comme vient de le dire Romain, par rater 2 jours et demi. Ils en ont été, tiens-toi bien, vendredi, à utiliser des 100 km réservés pour le tournage, normalement, pour essayer de déverminer ce qu'on appelle la voiture. Alors, ils ont une équipe de pilotes sur laquelle, avec tout le respect qu'on leur doit, on émet un petit peu de réserve, parce que autant Robert Kubica, le Polonais, était très rapide avant son accident, et George Russell, le Britannique, il est dit pour très rapide, Mais on est certain, en tout cas chez Williams, qu'on va avoir beaucoup de travail pendant cet été.
Allez, on en reparle dans un instant. On va à nouveau se couper pour le ski parce qu'il y a le deuxième et dernier français, enfin le quatrième et dernier français plutôt de cette manche à passer. Alexis Peintureau à Bansko, c'est le slalom géant et c'est sous les yeux de Morgan Moritz.
Il y aura forcément un français sur le podium puisque Thomas Fanara a gardé le leadership après le passage de Mats Olsson. Alexis Peintureau avec 10 centièmes d'avance sur Thomas Fanara dans la cabane de départ. Il est sur une pente dorée en ce moment. Peintureau, titre de champion du monde, médaille de bronze en géant. Et il a grand dit son avance sur son coéquipier de l'équipe de France. 18 centièmes pour Peintureau. Le passage en dévers sur la piste verglacée de Bansko. Et il accélère et il met beaucoup d'agressivité. Alexis Peintureau, c'est du très bon ski qu'il est en train de livrer sur la piste bulgare. Envie d'aller chercher, pourquoi pas, son 23e succès en Coupe du Monde. Lui qui a remporté le combiné il y a deux jours dans la station bulgare. Nouvelle intermédiaire. 15 centièmes d'avance pour Peintureau sur le chrono de Fanara. Mano à mano entre les deux hommes. Ça enfile bien les portes pour l'instant pour Alexis Peintureau. Nouvelle intermédiaire. Le petit mouvement de terrain qui est bien avalé par le skieur de Courchevel et 3 dixièmes de retard cette fois-ci sur le chrono de Fanara. Faut se battre pour aller pourquoi pas accrocher le podium et il se bat. Alexis Peintureau, il a perdu un peu de vitesse, il a laissé la main dans une porte et il y a quelques instants la partie finale pour le skieur de Courchevel, il va en terminer dans un instant. Arnaud, il passe sous la banderole d'arrivée et son chrono, il est derrière pour 10 centièmes, pour 1 dixième derrière Thomas Fanara. Premier Fanara, deuxième Peintureau à 10 centièmes de son coéquipier, troisième Krajcek. Il reste deux adversaires à passer, le Norvégien Henrik Kristoffersen et Marcel Hirscher. Il y aura un Français sur le podium, peut-être deux, Arnaud.
Pourquoi pas? Pour l'instant, ils sont deux, en tout cas, aux deux premières places. C'est le slalom géant de Bansko en Bulgarie. C'est l'une des dernières épreuves de la Coupe du Monde de ski alpin version 2018-2019 à 13h20 dans Motors sur RMC. On est toujours en ligne avec Jean-Luc Roy, notre spécialiste de la Dream Team, avec Romain Barnard également en direct avec nous en studio, rédacteur en chef d'Auto Hebdo qui est avec nous notamment à l'occasion de la sortie du guide F1 2019. D'Auto Hebdo que vous pouvez vous procurer d'ores et déjà en kiosque et dont RMC bien évidemment partenaire. On parle toujours de ces essais de Barcelone. On parlait de la déception Williams. Tiens messieurs, j'aimerais bien vous amener aussi sur pour l'instant les performances de nos pilotes français, même si je sais qu'il faut pas raisonner en termes de nationalité mais plutôt en termes d'écurie. Qu'est-ce qu'on peut déduire pour les Français et monégasques, Jean-Luc et Romain?
Écoute, je vais commencer par le Monégasque et personne m'en voudra plus jamais. Charles Leclerc, écoute, il a été étonnant, je l'ai signalé tout à l'heure, il a été l'homme le plus rapide de la deuxième journée. En tout cas, il fait ce qu'on attend de lui, mais ça on le savait depuis les essais qui s'étaient déroulés avec les Ferrari après le Grand Prix de Hongrie l'an dernier au mois d'août, et Romain s'en rappelle comme moi, où il avait été le plus rapide. Eh bien, il confirme en ce tout début de saison 2019 qu'il sera au niveau, évidemment. Lui et Vettel ont réalisé des performances extrêmement proches sur l'ensemble des 4 jours. On rappelle que les pilotes alternent dans ces séances d'essai, c'est-à-dire qu'ils ne roulent pas ensemble au sein de la même équipe, c'est l'un ou l'autre pilote. Ben, on peut d'ores et déjà affirmer que Charles Leclerc se montre, mais on s'y attendait, du niveau de Sébastien Vettel, et ça c'est vraiment formidable. On a même déjà commencé à dire du côté de Mattia Binotto, le team manager de chez Ferrari, qu'en début de saison, s'il y avait des choix à faire et des privilèges à donner, on avantagerait peut-être Vettel, c'est tout dire.
Oui. Bah surtout ensuite il y a juste comment dire un élément simple à rappeler, c'est qu'on ne devient pas pilote Ferrari par hasard, donc on fait déjà partie à minima des 3 ou 4 meilleurs pilotes du plateau. Et ensuite quand on rappelle juste ses statistiques, il a qu'une seule saison en F1 dans les pattes. Il est déjà promu chez Ferrari, donc non, là on parle juste de quelqu'un qui a un talent délirant. En plus il est franchement sympa. Il résiste très bien à la pression, donc non, nous, ça va être vraiment quelqu'un à suivre avec vraiment d'intérêt, de curiosité, parce qu'on est vraiment face à un phénomène.
Et forcément, on va en parler tout au long de la saison. On s'exprimera sur les Français, les autres Français, enfin les Français, ceux qui ont la nationalité française dans quelques instants. On va faire un nouveau détour par le slalom géant de Bansko en Bulgarie pour la Coupe du Monde de ski alpin. Cette fois-ci, c'est le dernier détour sous les yeux de Morgan Mori avec le dénouement de cette course.
Oui, Marcel Hirscher qui est en piste, 22 centièmes d'avance dans la cabane de départ. Pas sur Thomas Fanara qui a rétrogradé au deuxième rang, battu par le champion du monde en titre, le Norvégien Henrik Kristoffersen. Et Marcel Hirscher qui est dans son combat avec la piste, dans son combat avec son plus grand rival, le Norvégien Henrik Kristoffersen. Christopher Sen au premier intermédiaire. Hirscher conserve une petite avance sur son rival norvégien, 16 centièmes sur Christopher Sen. Et oh, Marcel Hirscher qui a failli finir à plat ventre avec sa force des jambes, la force des quadriceps. Il a évité la faute d'intérieur, il s'est redressé et il file à toute allure sur la piste bulgare. Marcel Hirscher dans son style toujours très personnel, très très agressif à chaque fois. Marcel Hirscher, il vient enfoncer les portes à chaque passage. Le nouvel intermédiaire pour le champion du Tyrol, Marcel Hirscher. Il est derrière, 6 centièmes derrière Christopher Sen. Marcel Hirscher qui pourchasse sa 69e victoire en Coupe du Monde. La partie finale, la partie la plus tournante pour Marcel Hirscher. Est-ce qu'il sera premier, deuxième, troisième? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un podium pour un Français, peut-être deux. Et Marcel Hirscher qui en termine, il passe sous la banderole d'arrivée. Et il est deuxième, 4 centièmes derrière Christopher Sen. 17e victoire en carrière pour Christopher Sen devant Hirscher. Et 3e place pour Thomas Fanara. 4e place pour Alexis Pinturo. Donc un Français sur le podium. C'est Thomas Fanara, 37 ans, le 14e podium de sa carrière, son 3e de l'année.
Merci beaucoup Morgan Mori. Prochain rendez-vous ski alpin, Kranjska Gora en Slovénie, c'est ça?
Et il y a Vitiel aussi pour les Vitiel hommes de la vitesse. Et dans quelques instants, la deuxième manche du combiné féminin à Grand Montana.
Merci beaucoup Morgan. Évidemment, on suit ça avec la plus grande attention. 13h24, Motors revient dans un instant. La suite de notre spécial Formule 1 à 3 semaines du début du championnat du monde en Australie. Tiens, l'un des membres les plus éminents, on va dire, de la Formule 1 française sera avec nous en ligne. Éric Boulier, l'un des organisateurs notamment du Grand Prix de France. A tout de suite sur RMC.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean-Luc Roy.
Et jusqu'à 14h, comme tous les dimanches, 13h-14h, vous avez l'habitude, c'est Motors. Et c'est évidemment toute l'actu des sports mécaniques de la semaine. On va pas se mentir, on va parler que de Formule 1 aujourd'hui, 100% Formule 1. On est évidemment avec Jean-Luc Roy, on est toujours avec Romain Barnard, rédacteur en chef d'Auto Hebdo, à l'occasion de la sortie du guide Formule 1 2019, notamment, vous pouvez vous procurer en kiosque. On a longuement parlé des premiers essais de Barcelone. On va également évoquer la deuxième séquence d'essais à venir. Et avant ça, je vous propose d'accueillir notre invité Éric Boulier, membre de l'organisation du Grand Prix de France de Formule 1 au Paul Ricard et ancien team principal de Renault F1 puis de McLaren. Il est avec nous en direct. Bonjour Éric Boulier.
Bonjour monsieur.
Et merci de nous faire l'amitié justement d'être avec nous. Jean-Luc, je te laisse peut-être tu as peut-être des choses à dire à notre invité.
Oui, tout d'abord, je suis ravi d'accueillir Eric. Merci beaucoup, Eric, d'avoir accepté cette invitation pour participer dans Motors. Et on est ravi de te revoir dans le monde de la Formule 1, même si je pense que tu n'en as jamais été très loin. Alors, on sait que tu étais évidemment le team principal de McLaren jusqu'au milieu de la saison dernière. On va parler de ton actualité tout de suite et on reviendra, si tu veux bien, d'un mot sur McLaren. Donc, tu fais partie de l'organisation du Grand Prix de France. Et je me rappelle, bien sûr, que tu as beaucoup œuvré déjà pour le retour de ce Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard l'an dernier. Tu peux nous dire de quelle manière tu l'as fait, puisqu'à l'époque, tu étais chez McLaren?
Oui, alors effectivement, étant basé en Angleterre, en fait, il avait été convenu avec de faire une petite task force avec Gilles Dufaigneux à l'époque. Et donc, j'étais un peu le relais vis-à-vis de la FOM, donc qui est la société qui dirige la F1, et Bernie Ecclestone à l'époque.
D'accord. Donc effectivement, tu faisais ça, comme on vient de le dire, en plus de tes responsabilités chez McLaren. Qu'est-ce qui t'a conduit maintenant à t'impliquer beaucoup plus complètement dans l'organisation du deuxième Grand Prix? Et puis apparemment, j'imagine que c'est un contrat à long terme qui te lie notamment à tu as parlé de Gilles Dufaigneux, mais à Christian Estrosi. Hein. C'est avec lui que tu as négocié cet accord.
Tout à fait. Christian m'a appelé en fait l'été dernier. Puisque c'était grâce à lui en même temps que c'est grâce à lui que le Grand Prix de France est revenu en France d'abord, mais c'était aussi à son initiative qu'il m'avait appelé et mandaté pour donc avoir ces discussions en Angleterre. Et donc voilà, ayant été un petit peu dans la genèse du projet, ça m'intéressait de voir un petit peu de m'impliquer un peu plus en tout cas à ses côtés et à côté de Gilles dans l'organisation du Grand Prix.
Et oui, puis on sait que cet aspect de négociation, évidemment, avec la FOM, dont tu viens de parler, est assez complexe. Alors, en tant que responsable de l'équipe Renault, on le rappelle, et de l'équipe McLaren, tu as eu à beaucoup discuter avec eux. Si tu permets, je vais ouvrir tout de suite le deuxième paragraphe. On sait bien que, justement, les négociations de reconduction de contrat des organisateurs sont très complexes. On voit qu'il y a plusieurs grands prix en difficulté. On peut citer le Mexique, évidemment, au premier chef. On peut citer Monza. On peut en citer d'autres. Du côté du Grand Prix de France, je crois qu'on est parti sur un contrat de 5 ans, hein, première année inclus, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Il y a eu un engagement de sur 5 ans. Et en fait, au vu du succès de la première édition, on voudrait essayer un petit peu de pérenniser justement ça sur un futur un peu plus long.
Alors, je vais revenir évidemment sur le succès qui a été le premier Grand Prix et tout de suite te parler, tu sais ce que je vais te dire, et je sais que des mesures ont déjà été prises, évidemment, c'est la circulation le premier jour notamment, et même le deuxième, on était sur place évidemment, qui a été un peu compliqué. Je crois qu'on a pris le taureau par les cornes au niveau de l'organisation et des grandes mesures ont été annoncées déjà au plan de l'accès au circuit.
Oui, effectivement, ça restera quand même le point négatif de cette première édition, on va pas se le cacher. Mais il y a effectivement beaucoup de travail a été fait pendant plusieurs mois pour essayer de comprendre, mais pas seulement comprendre, j'irais construire des solutions à long terme et surtout aussi avoir des data et des données qui permettent de prendre les bonnes décisions. Il y a eu des simulations de fait maintenant récemment qui prouvent que voilà les décisions prises sont les bonnes, que ce soit des apparitions de camping ou des parkings de délestage. Bref, il y a tout un tas de solutions qui, sur la mobilité en tout cas, qui vont être mises en place, qui sont, je pense, le garant d'un événement un peu plus tranquille.
Bon, bah écoute, c'est impeccable et c'est une très bonne nouvelle pour tous les gens qui étaient coincés. Puis je crois que tu sais, c'est tout bête et je leur tape pas sur le casque, évidemment. Si les gendarmes au carrefour ont les bonnes consignes de la part du préfet, bah ça fonctionne. C'est aussi bête que ça. Et nous, on a pu le constater aussi, puisque les pauvres, ils n'avaient pas les bonnes consignes. Allez, on oublie ça. Pour parler du côté sportif, j'imagine évidemment, Eric, que tu as suivi cette première séance d'essai, ces 4 jours, avec beaucoup d'attention. En termes de performance, j'imagine qu'un peu comme nous, t'es un peu surpris par les résultats obtenus ou pas vraiment?
Je crois que au fil des années, s'est développée une philosophie de ne pas montrer ses cartes, en tout cas la première semaine. Donc, et puis à l'inverse, il y en a d'autres peut-être qui sont un peu déçus par les performances de leur voiture, qui vont essayer d'aller faire claquer quelque temps. Donc c'est assez compliqué de lire la première semaine. La constance, ça a été Ferrari, constamment aux avant-postes, dans des temps assez réguliers. Et après, c'est surtout là où il y a des informations plus intéressantes à tirer, c'est sur les longs runs et les simulations de course qui ont été faites. Mais effectivement, c'est assez étonnant, notamment de voir Mercedes un peu en retrait, mais ça, c'est volontaire. Et c'est surtout, je pense, durant la deuxième semaine, où là, les écuries vont commencer à amener certaines pièces de développement. Certaines voitures vont être d'ailleurs en configuration Melbourne. Et c'est là où on va commencer à voir un petit peu quelle est la hiérarchie.
Éric Boulier avec nous en direct sur RMC, ancien type principal, notamment de Renault F1. Comment ça se passe justement entre deux séquences, on va dire, d'essais comme ça, de pré-saison? Qu'est-ce qui peut se passer au sein de l'écurie à ce moment-là? Est-ce que c'est un moment important justement, cette planche de 4-5 jours là entre les deux séquences d'essais?
Oui, ça l'est parce que il y a des équipes qui travaillent par. Il y a l'équipe de jour et l'équipe de nuit. La voiture est reconditionnée en permanence. Tous les jours, il y a des pièces qui arrivent d'Angleterre ou d'Italie ou de Suisse. C'est un balai incessant, en fait. Et la pause pendant les deux séances d'essai permet à l'usine, en général, de préparer des correctifs s'il y avait des petites choses à améliorer ou tout ça pour la fiabilité ou autre chose.
D'analyser des données aussi, j'imagine, qui doivent être très importantes à ce moment-là de la saison.
Bien sûr, mais c'est en permanence en fait. Hein. Il y a une écurie de Formule 1, c'est entre 400 et 1000 personnes, ça dépend de la taille. La raison pour laquelle il y a autant de personnes, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui analysent en même temps, en temps réel.
Jean-Luc, je te redonne la parole.
Oui, bah, y a tellement de questions à poser à Eric. Il m'en voudra pas évidemment de te poser une question sur cette équipe McLaren. Est-ce que tu veux bien, est-ce que c'est pas une question indiscrète, Eric, déjà nous expliquer ce qui t'a conduit à partir après 4 années, hein, quand même, aux commandes de cette équipe McLaren, prestigieuse également, rappel, avec de nombreux titres de champion du monde. On sait qu'elle est en réorganisation, reconstruction, je sais pas quel mot utiliser. À un moment, on sait bien aussi, et j'y vais carrément, hein, qu'il y a malheureusement dans les équipes de Formule 1 des fusibles aussi. Est-ce que quelque part, j'oserais dire, on t'a fait payer les mauvais résultats, alors qu'on rappelle qu'évidemment, c'était lié aussi au moteur Honda. Hein.
C'est une question un peu, évidemment, sensible, mais ouais. C'est le rôle et les responsabilités à assumer. On essaye on se donne à 100%, c'est 7 jours sur 7. Maintenant, si ça ne marche pas bien, il faut penser à restructurer, réorganiser, on utilisera le mot que tu choisis. Mais à un moment ou à un autre, il faut prendre ses responsabilités. Donc, bon, je me suis beaucoup investi. Ça ne marchait pas aussi bien qu'on le voulait. Il y a plein de raisons. Donc, voilà, on a décidé d'arrêter.
En tout cas, on est ravis de te revoir impliqué dans le monde de la Formule 1, Eric. Je reviens sur Renault également. Là, la progression, elle est assez nette, hein, on peut dire, sur les trois saisons de retour officiel de Renault, avec une quatrième place au championnat du monde. Mais on le sait tous, évidemment, la marche qui les sépare des trois premières, elle est très importante.
La marche est importante, mais effectivement, c'est ce que tu as dit est vrai. Il y a une grosse progression sur les trois dernières années. Je pense qu'il y a une bonne équipe en place aujourd'hui, en tout cas les bonnes personnes, et on voit bien qu'ils se rapprochent de la tête. Maintenant, ceux qui sont tout devant vont être difficiles à rattraper. Et c'est un travail collectif qui doit concerner le châssis et le moteur.
Éric Boulier, membre de l'organisation du Grand Prix de France de F1 au Paul Ricard, ancien team principal de Renault F1 puis de McLaren, est avec nous en direct dans Motors à 13h35 sur RMC. Bienvenue d'ailleurs si vous nous rejoignez. On est toujours avec Romain Barnard également, rédacteur en chef d'Auto Hebdo, qui est notamment là pour nous présenter ce guide Formule 1 2019. Vous avez une question, je crois, Romain, peut-être à l'attention d'Éric.
Oui, Éric, oui. Bonjour Eric déjà, et merci aussi pour le reportage que tu nous as accepté de nous accorder pour la semaine prochaine. Donc là je vous fais un peu de spoil, donc dans le prochain magazine il y aura un super reportage avec toi. Non, moi j'ai juste une question justement à t'écouter, notamment à propos du redressement actuel de McLaren. On sait que tu as été l'un des premiers acteurs pour pousser l'arrivée du moteur Renault en remplacement du Honda. Ça s'est fait assez tardivement en fin de saison 2017. On savait donc du coup que la voiture 2018, elle était un peu sacrifiée là-dessus. On n'implante pas un moteur aussi complexe dans une monoplace comme ça aussi rapidement. Donc on savait voilà que la saison 2018 était sacrifiée. Est-ce que c'était pas du coup un départ un peu anticipé, puisque pour moi la vraie McLaren Renault c'est celle de cette année, et puis on se rend compte qu'elle est pas si larguée que ça finalement. Le concept a bien été rattrapé.
Oui, après il y a l'intégration. Alors effectivement, c'est une longue histoire. Hein. Honda a été signé avant que moi je n'arrive, et je pense que en termes de timing, c'était pas très bien choisi. En tout cas, ils n'étaient pas forcément prêts, et ça a tendu un peu les relations, surtout même au sein de l'équipe. L'arrivée de Renault, c'est vrai que la première après un an de rodage avec Renault pour McLaren, c'est vraiment la première voiture cette année, effectivement. L'intégration s'est bien passée. Il y a, je pense, des performances intéressantes. On va voir un peu plus ça la semaine prochaine. Maintenant, il faut aussi que McLaren a besoin, va devoir continuer sa métamorphose et sa restructuration.
Ouais, bien sûr, ça prend du temps.
Parce que le McLaren qu'on a connu dans les années 2000, qui était toujours aux avant-postes, ne l'est plus. Donc, il y a vraiment des choses à reconsidérer et en tout cas, il a changé.
Ok, merci.
Jean-Luc, je te redonne la parole.
Oui, Eric, j'ai envie de rebondir sur cette affaire de moteur, évidemment, ou plutôt de groupe propulseur, hein, puisque tu le sais mieux que personne, et encore mieux que nous, c'est d'une telle complexité maintenant, avec 6 éléments, certains qui sont contrôlés, d'autres qui ne le sont pas, enfin bon, c'est vrai que ça devient un groupe propulseur. Moi, j'ai toujours coutume de dire, et j'espère que tu seras d'accord avec moi, que les grands motoristes ne meurent jamais. Je ne peux pas comprendre que Renault et Honda, qui ont été des motoristes absolument extraordinaires en Formule 1, rencontre autant de problèmes aujourd'hui face à Mercedes et Ferrari, et je pense que tu ne vas pas me démontrer le problème. En fait, c'est toute ces raccords électriques, ce chargement électrique, la manière dont on restitue la puissance qui pose problème, parce que c'est tellement complexe. En deux mots, Renault et Honda n'ont pas pu devenir de mauvais motoristes, et j'entends au terme thermique du terme.
Alors, ils ne sont pas du tout des mauvais motoristes, bien entendu. Les deux constructeurs sont capables et seront capables de rivaliser avec Mercedes et Ferrari. Maintenant, comme toute nouvelle réglementation, il se passe un temps de transition jusqu'à ce que, je dirais, les forces soient plus ou moins égales. On sait tous que Mercedes d'abord a investi énormément. Je me rappelle, en arrivant chez Renault F1 en 2010, entendre entendre les gens du paddock dire que Mercedes, et l'investissement était incroyable, il y avait des chiffres qui partaient dans tous les sens, mais il s'est avéré que ils ont investi très tôt beaucoup dans cette technologie. Et comme tu l'as dit, ce n'est plus un simple moteur thermique aujourd'hui, c'est la gestion électrique et électronique de ces deux moteurs électriques qui sont associés avec. Mais c'est aussi le fait que la réglementation a des contraintes, notamment en termes de fuel embarqué, qui ont fait qu'il a fallu ressortir des technologies de combustion qu'on n'utilisait pas. Il y a eu tout un tas de choses en fait qui ont été découvertes après, qui fait que Mercedes a toujours gardé un train d'avance. Ferrari les a rattrapés assez vite, mais Honda et Renault sont au niveau, en tout cas seront, s'ils ne le sont pas, ils le seront très vite.
Alors Eric, je vais là aussi gratter un petit peu, c'est mon habitude, là où ça fait mal, pas te concernant, mais concernant la réglementation de la Formule 1. C'est un paradoxe, on a voulu mettre de l'écologie là-dedans, de l'électrique là-dedans, et on accorde 5% de carburant en plus cette année dans les machines pour les Grands Prix. Alors moi je m'en réjouis, tu sais pourquoi? Parce que enfin peut-être les pilotes vont pouvoir attaquer, en tout cas peut-être pas du début à la fin, mais plus souvent et plus longtemps. Et puis est-ce que tu ne penses pas que ça peut justement peut-être aider un petit peu Renault et Honda a recollé au peloton devant?
Je pense que tous les changements aujourd'hui dans la réglementation peuvent aider ceux qui sont un peu derrière, on va dire. Donc il y a des opportunités qui se créent à ce moment-là. Ah non, c'est vrai que tu en parles de ces moteurs, c'est quand même des bijoux technologiques, on en parle peut-être d'ailleurs pas assez. Si on, juste à titre de comparaison, hein, en 2005, il fallait 220 litres de carburant pour faire un Grand Prix de 300 km. Aujourd'hui, vous faites le Grand Prix avec 110 litres. Et vous tournez aussi vite, disons, voire plus vite. Donc il y a quand même eu, je dirais, en termes de recherche avancée sur la technologie, c'est quand même assez extraordinaire. Maintenant, effectivement, ça c'est quand même extrêmement compliqué en termes de technologie.
Alors, une dernière question, Eric, parce que malheureusement, le temps passe très vite, mais tu reviendras, tu me le promets, et tu reviendras dans mon
avec
temps.
Avec plaisir.
Alors, en termes de, toi qui es ingénieur, évidemment, automobile et ingénieur même en aérospatial, est-ce qu'il faut pas redonner un petit peu de place aux pilotes malgré tout? Parce que c'est vrai que souvent, le grand public, moi j'entends ça sans arrêt, on me dit, ah oui, mais le pilote, il est téléguidé parce que les ingénieurs lui disent, fais ci, fais ça. Est-ce que c'est important, évidemment, pour la Formule 1 de redonner de la place aux pilotes malgré tout?
Il faut redonner, je crois que le débat est un peu plus grand. Effectivement, la technologie et l'ingénierie en F1 ont pris une place prépondérante et peut-être même trop importante. Donc la réponse à ta question, c'est oui, il faut redonner un peu aux pilotes un peu d'espace et les laisser, entre guillemets, se battre avec leurs machines entre eux. Et je crois que c'est une des réflexions, une des pistes en tout cas de réflexion que la FOM et la Liberty sont en train d'avoir pour profiter du prochain changement de réglementation en 2021 et essayer d'améliorer ce show, on va dire, qui est un sport, mais essayer d'améliorer le show sur la piste.
Et d'ici là, on vous remercie d'avoir été avec nous. Éric Boulier, membre de l'organisation du Grand Prix de France de Formule 1, Paul Ricard, ancien team principal de Renault F1, puis de McLaren. Très belle journée à vous.
Merci Eric.
De même.
Et à bientôt, vous revenez quand vous voulez. 13h43 dans Motors sur RMC, on est ensemble jusqu'à 14h. Je vous rappelle la victoire d'Henrik Kristoffersen lors du slalom géant de Bansko. C'était la Coupe du Monde de ski alpin, qui s'est imposé devant l'Autrichien Marcel Hirscher et devant deux Français, Thomas Fanara fait 3, Alexis Peintureau fait 4e. Le direct, c'est en ce moment le rugby, la 17e journée de Top 14, le match entre le Castres Olympique et le Racing 92. Pour l'instant, les Tarnais mènent 12-6 sur leur pelouse du stade Pierre Fabre. Sachez qu'à 16h50, il y aura le match de clôture de cette 17e journée de Top 14 entre Lyon et Clermont. Dans un instant, dans Motors, c'est Radio Paddock. Et puis juste après ça, à partir de 14h, c'est l'Intégral Sport qui arrive sur RMC. À tout de suite.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Jusqu'à 14h, Motors sur RMC avec Romain Bernard, également rédacteur en chef d'Auto Hebdo. Dans un instant, Radio Paddock avec toutes les infos coulisses de la semaine. On parlera également de ce guide, Auto Hebdo, guide de la Formule 1 2019, disponible en kiosque RMC, bien évidemment, partenaire. Et Jean-Luc et Romain, je vous laisserai en discuter dans quelques instants. D'ici là, je vous rappelle qu'il y a toujours du rugby, 56 minutes de jeu au stade Pierre Fabre. Le Castres Olympique mène 12-6 face au Racing 92 avant-dernier. dernier match de la 17e journée de Top 14 de rugby. On est également sur toutes les pistes de ski alpin, la Coupe du Monde féminine, avec cette fois-ci le super combiné de Cran Montana, Morgane Maury. Les Françaises peuvent-elles briller?
Et il en reste une qui a une chance de briller, c'est Romane Miradoli, 5e de la première manche. C'était une descente à 79 centièmes de l'italienne Federica Brignone. On va pas se mentir Arnaud, le slalom ce n'est pas la tasse de thé de la skieuse de Flandre. Peut-être obtiendra-t-elle un bon résultat. La victoire devrait se jouer entre Brignone, Holdener, la Suissesse, la championne du monde du combiné, ou la canadienne Ronnie Rehm. Donc Romane Miradoli, 5e de la première manche à 79 centièmes de Brignone. En tête pour l'instant l'allemande Patricia Dorsch après 11 dossards.
Allez, tout de suite c'est Radio Paddock.
RMC Motors. Radio Paddock.
Et on accueille Angie Loata qui est avec nous en direct. Salut Angie.
Salut Arnaud, salut tout le monde.
Pour toutes les infos coulisses, ou pas salut forcément Angie. Coulisses salut. D'ailleurs, de la Formule 1, puisque je vous rappelle, c'est une spéciale Formule 1. Aujourd'hui, on parle du on commence avec une alerte, donc pour un Grand Prix de Formule 1, en l'occurrence celui du Mexique.
J'ai vu la mèche. En l'occurrence celui du Mexique, exactement. T'as tout spoilé. Qui va perdre des subventions le Grand Prix du Mexique? On le sait, hein, c'est le nerf de la guerre forcément. L'État qui mettait environ 18 millions d'euros pour aider à l'organisation du Grand Prix du Mexique. Et ce ne sera plus le cas. C'est le président qui l'a annoncé la semaine dernière, le président mexicain. Dans ce contexte, on est de moins en moins sûr que cette épreuve reste au calendrier de la Formule 1. D'autant qu'il va falloir aussi intégrer le Vietnam à ce calendrier à partir de 2020, Jean-Luc. C'est un peu ça aussi la réflexion qu'on peut avoir sur l'ensemble du calendrier Formule 1.
Eh oui, ce serait vraiment une grosse perte hein, si le Grand Prix du Mexique, de retour à Mexico, sur le circuit des frères Rodriguez, qui était un circuit mythique que Romain connaît bien, enfin il est beaucoup plus jeune que moi, mais il a connu, il y a eu des batailles formidables, et moi je me rappelle notamment d'une remontée d'Alain Prost extraordinaire où il vient remporter un Grand Prix. Bref, c'est un retour très populaire de la Formule 1 au Mexique, d'autant que il y a un pilote, hein, Sergio Pérez, qui est là, et c'est lui qui se montre très très inquiet, parce que on sait très bien que structurellement, l'organisation des Grand Prix est déficitaire, et je sais bien que Romain s'est penché aussi dans le guide, on y revient sur ce problème-là. C'est bien joli de vouloir créer d'autres Grands Prix dans d'autres pays, mais je pense que quand on a des perles, et le Grand Prix du Mexique en fait partie, bah, il faut essayer de les conserver. Je sais pas ce que t'en penses, Romain.
Ouais, alors aujourd'hui, en fait, je pense qu'on paye un peu une politique qui avait été instigée par Bernie Ecclestone, c'est-à-dire qu'un Grand Prix de F1, c'est une carte postale, un peu pour la faire de la publicité pour des pays. On l'a vu avec, Abu Dhabi, Singapour ou quoi que ce soit, des pays on avait un peu de mal à les mettre sur une carte du monde. Donc on s'est ouvert à des destinations un peu exotiques. Le Mexique, c'était vraiment le retour d'un historique, si je puis dire. Et puis on voit que les tribunes sont tout le temps pleines. Bon, voilà, je pense que du coup après c'est un peu un bras de fer politique entre des gens qui font un peu peut-être du populisme et qui veulent plus mettre de l'argent soi-disant pour des raisons un peu fallacieuses. Et puis dans le même temps, le gros soutien du Grand Prix du Mexique, on sait que c'est la famille Slim qui est multimilliardaire. Donc voilà, peut-être que la question se réglera aussi juste par une petite rallonge budgétaire de la part de la famille Slim. On sait pas. Moi ensuite, pour faire le point sur le Vietnam, bon, encore une fois, c'est bien, ça fera des belles images, mais d'un point de vue passionnel, il n'y a aucune histoire là-bas.
Donc, on parle d'un Grand Prix historique, Romain. Je regarde un petit peu justement dans le guide où on découvre tous les circuits, dans le guide Auto Hebdo de la Formule 1 2019. Première édition de ce Grand Prix du Mexique qui aura lieu cette année le 27 octobre à Mexico 1963. À titre de comparaison, par exemple, un autre Grand Prix historique comme celui du Brésil n'est apparu au calendrier qu'en 1973. Celui du Japon, mythique Grand Prix de Suzuka, n'est apparu qu'en 1976. Alors même s'il n'y a eu que 19 éditions à Mexico, on comprend quand même toute l'ampleur de ce Grand Prix dans le monde de la Formule 1.
Oui, c'est un pays qui est ultra passionné par l'automobile au sens large. Donc voilà, il y a aussi un rallye qui fait beaucoup de succès. Et voilà, ça se voit, c'est un pays qui a été sevré de compétition pendant des années. Pour des raisons économiques, c'est quand même la crise. Et ils sont tout de suite au rendez-vous. Même la Formule E, si je puis dire, qui s'est déroulée là-bas il y a une dizaine de jours, les tribunes étaient combles. Donc c'est vraiment un pays où, pour le coup, on ne s'y déplace pas pour de mauvaises raisons, si je puis dire, commerciales. Il y a vraiment un vrai intérêt.
On se délecte d'ailleurs de découvrir tous les tracés, toutes les petites infos autour dans ce guide F1 2019. Merci. Auto Hebdo sur les 21 grands prix à venir cette année. Il y a vraiment tout hein, pour le coup.
Bon, on espère.
On espère, oui. Non, mais c'est ça. Non, mais on peut découvrir notamment les meilleurs résultats par pilote. On découvre la première année. Il y a plein de données techniques tout à fait intéressantes. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien me plonger dans ce genre de lecture. Pas toi, Jean-Luc?
Ah ben c'est la Bible, moi j'y vais carrément, faut pas hésiter, il faut l'acheter tout de suite, d'abord c'est le premier qui sort et ça c'est un exploit, avec les photos des nouvelles monoplaces, parce qu'on sait que les écuries les ont dissimulées jusqu'à la semaine dernière, hein. En général maintenant il n'y a plus les grandes présentations qu'on a connues, et ça Romain s'en souvient, avant c'était ouais. Vraiment un faste incroyable, d'ailleurs on gaspillait un argent fou, maintenant on présente ça quasiment sur le circuit ou presque, ou en petit comité, au dernier moment, pourquoi? Ben on le voit bien avec Williams, parce que les voitures sont terminées au dernier moment, sont décorés au dernier moment. Donc c'est un exploit que de sortir ce guide très complet, parfaitement complet. C'est vraiment, moi je m'en sers toute la saison. Je
avec les horaires de diffusion des Grands Prix heure française et le petit logo RMC Info Talk Sport. Hein. C'est important de le dire aussi, puisque évidemment, c'est vrai, RMC est évidemment radio diffuseur du championnat du monde de la Formule 1 et RMC partenaire également d'AutoHebdo. Je vous propose de continuer nos paddocks, nos radios paddocks avec Angie Louattatière. Les essais de Barcelone, on en a longtemps parlé pendant le début de cette émission. Il y a eu un petit fait divers. Ouais. Le fait divers de ces quatre.
Le fait divers, voilà, le moment un petit peu où on sort de la voiture et où on entre dans le fait divers. Effectivement, ça s'est passé dans le stand de McLaren. C'est un petit incendie qui s'est déclaré. Il y a trois mécaniciens quand même qui ont été légèrement blessés. McLaren n'a pas précisé immédiatement les raisons de cet incendie qui a eu lieu a priori pendant un ravitaillement. Incendie vite maîtrisé et les trois blessés sont rapidement sortis de l'hôpital, donc comme on a la coutume de dire, plus de peur que de mal.
Oui, bon, c'est important aussi de rappeler que quand on bosse aussi dans ce milieu, on manipule pas forcément tout le temps.
Ça peut arriver, quoi.
Ça peut arriver. C'est un petit peu ça.
Oui. Bah, par contre, là, ça va, ça se passe bien. Il y a eu un vrai incendie, par contre, qui s'est passé il y a un an et demi chez Williams, par contre, sur un Grand Prix. Et là, par contre, ça a vraiment mis le feu quasiment à la moitié, du garage, et c'était beaucoup, beaucoup plus grave avec des intoxications.
On a progressé en termes de risque, de prévention.
On sait qu'il y a des grandes quantités de carburant naturellement qui sont stockées. Alors il y a des procédures qui sont extrêmement rigoureuses et la FIA l'a rappelé à l'occasion de cet incendie chez McLaren, qui doivent absolument être appliquées même dans le cadre de ces essais. Alors là, c'était vendredi dernier, c'était officiellement une séance de tournage, on l'a dit, dont Williams a profité, je l'évoquais tout à l'heure, hein, pour faire une petite centaine de kilomètres. Je crois que chez McLaren, on a fait rouler d'ailleurs une Formule 1 avec un modèle de série. Bon, effectivement, heureusement, personne n'a été blessé, les mécaniciens ont été un petit peu brûlé, mais ça n'était pas grave. Et comme tu le dis, il faut rendre hommage à eux et aux commissaires, évidemment, qui sont là pour assurer la sécurité.
T'as des souvenirs, toi, Jean-Luc, dans tes nombreuses années de suiveur de Formule 1, de ce genre de choses, d'incendies aussi qui parfois auraient pu être dramatiques ou l'ont été?
Oui. Oui, et ben écoute, on va évoquer un Verstappen, tu vois, c'est celui qui me vient tout de suite à l'esprit, puisque de mémoire c'était en Allemagne, c'était à Hockenheim, lors d'un ravitaillement, effectivement. On sait que les organes mécaniques sont portés à incandescence, c'est peu de le dire, et le plus dangereux c'est pas seulement le liquide, mais ce sont les vapeurs. Et au moment où Verstappen s'arrêtait avec sa Benetton de mémoire pour ravitailler, ben il y a eu une boule de feu littéralement, et là je peux dire personne en menait large, hein, parce qu'on a eu très très peur, non seulement pour le pilote, mais pour les mécaniciens autour. Heureusement ça a été maîtrisé. Les pilotes sont très bien équipés, évidemment, avec les casques, les cagoules ignifugées, les combinaisons, et les mécaniciens aussi, maintenant, qui sont très protégés. Mais il faut rappeler que c'est un sport dangereux et qu'effectivement, alors les ravitaillements, on le sait, ont été supprimés maintenant, mais la preuve, il peut toujours se produire un incident à un moment ou à un autre, et notamment dans le cadre de ces essais privés.
Ouais. Et aujourd'hui, il y a même un nouveau risque, c'est la quantité d'énergie électrique qui est embarquée dans ces monoplaces. Ouais. Et qui est pas qui est source d'électrocution possible, donc voilà, faut faire très attention avec ça.
La quantité d'énergie électrique qui est embarquée, c'est-à-dire?
Aujourd'hui, ce sont des voitures hybrides, donc elles embarquent une batterie qui permettrait quasiment à faible vitesse de réaliser un tour à vitesse 100% électrique. Donc il y a largement de quoi. C'est un voltage environ à 800 volts. Il y a un faux contact, vous touchez la voiture, vous êtes par terre.
D'accord. Tiens, on va sortir du monde de la Formule 1 avec le MotoGP. J'avais promis que c'était une spéciale 100% Formule 1. Bon, allez, 99% Formule 1. Andy, une MotoGP avec les tests au Qatar.
Ouais, un premier jour qui a été concluant pour Maverick Vinales, les Yamaha
Yamaha globalement qui s'en sont pas mal sortis du tout, avec Rossi et Quartararo aussi qui étaient bien placés. En deuxième position, Alex Rins sur Suzuki, puis les Ducati de Dovizioso et Petrucci, troisième et quatrième. Pas très concluant en revanche, c'est peut-être ça qu'on va retenir pour Johann Zarco, 16e, Jean-Luc.
Oui, le travail continue du côté de KTM. Alors, une fois n'est pas coutume, Johan, 16e, comme tu viens de le dire, est devancé assez largement par Paul Espargaro, son équipier au sein de l'équipe d'usine KTM. Pas loin derrière Zarco, juste derrière, mais mon ami Miguel Oliveira, qui est un pilote qui a été promu, hein, qui est monté du Moto2. Je crois que c'est du travail. On sait que Johan, et c'est vrai que ça ne sert à rien d'attaquer, je dirais, très fort tant que la moto n'est pas au point. Je pense que c'est un travail de fourmi, presque. Il y a beaucoup de développement à faire pour que la KTM arrive au niveau des Yamaha, Suzuki et autres Ducati que tu viens d'évoquer. Donc je pense que Johan sortira du bois quand il sera sur une machine qu'il maîtrise parfaitement. Et puis un petit mot, si tu veux bien, de Marc Marquez, parce qu'il n'est que 10e et c'est une surprise. Voilà. En fait, Marquez, il souffre toujours de son épaule. Il a été opéré en fin de saison. Il y a déjà un bon moment, hein, début décembre, mais il met un petit peu de temps à revenir et pourtant il s'en est pris une. Et il a chuté sans se faire mal, heureusement, à cette épaule-là. Il a chuté, c'est pas une grosse chute, hein, mais il a chuté malgré tout. C'est la preuve qu'il s'engage évidemment dans ses essais privés.
J'ai un chrono sous les yeux, Romain Bernard, je vous laisse 30 secondes pour nous convaincre d'acheter justement en kiosque ce guide Auto Hebdo, ce guide Formule 1 2019. J'ai le chrono sous les yeux, 30 secondes.
30 secondes.
C'est quoi? Non mais du coup qu'on explique bien ce qu'on y retrouve.
Bah on y retrouve toutes les figures imposées, ça vous permet de vous réactualiser sur les pilotes, les nouvelles livrées, les circuits, évidemment tous les horaires, parce qu'en plus ceux-là ont changé depuis l'an dernier. C'est plus le rendez-vous dominical à 14h comme par le passé. Maintenant, c'est un peu des horaires un peu fluctuants. Et ensuite, ça nous permet surtout d'aller pendant ces mois d'hiver à la rencontre des acteurs et de pouvoir proposer aussi des choses un peu différentes, des rencontres. Voilà. Kimi Raikkonen qu'on prend pour un vieil ours est en fait quelqu'un de très très drôle. Il nous accorde une interview avec Fred Vasseur qui est vraiment drôle. La couve, c'est sur Charles Leclerc. On dit le petit prince de Ferrari, donc c'est clairement une allusion à Gilles Villeneuve. Et voilà,
à découvrir.
On a pu le voir en privé en Italie, chez voilà, sur une piste de kart, c'est super.
Je vous avais laissé 30 secondes, vous en avez pris 57. Voilà. C'est pas mal.
Va falloir la différence.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Romain Bernard, rédacteur en chef.
Merci Romain.
Merci Jean-Luc Roy. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, 13h-14h pour Motor sur RMC. Je laisse la place à Louis Amar. Mais t'es encore là, Louis.
Mais oui, je suis
un marathonien de la radio.
Ça va, Tchassouk?
Mais écoute, oui, ça va très bien.